Chapitre 5. Le chinois raccourci. Lorsque le fiacre les déposa au 7 Shipside High Road, devant la marquise du Wood Green Empire, ils avaient 50 minutes de retard. Ils se hâtèrent de franchir les portes. Sous l'affiche colorée qui annonçait le spectacle, on pouvait lire, en larges lettres rouges, « Chang Ling Soo, le merveilleux magicien chinois, inimitable et rare fragment préservé de l'Empire jaune ». Holmes montra leur billet à une ouvreuse. Ils gravirent derrière elle le grand escalier, parcoururent des corridors déserts, puis s'installèrent avec précaution dans la loge centrale que Lady Macrae leur avait fait réserver. Chang Ling Soo était sur scène, dans un somptueux décor de toile peinte censé figurer l'intérieur du palais d'été avec force lanterne et perspective de pagode. Il portait une robe de soie brodée descendant jusqu'au sol. Rasée loin en arrière du crâne, ses cheveux formaient une longue natte qui pendait sur son épaule droite. Des applaudissements éclatèrent. Le magicien venait d'extraire une oie vivante du tambour éventré suspendu à sa taille, volatile qui rejoignit, près d'un aquarium où tournaient des poissons rouges, une quantité invraisemblable de lapins, de bouquets et d'ombrelles multicolores. Chang Ling Soo salua, les deux mains jointes, sans laisser tressaillir un seul muscle de son visage, puis le rideau tomba. « Il est épatant !» murmura Holmes. « Nous aurions dû arriver à l'heure. » Et, lisant le programme par-dessus ses lunettes, « Il ne reste plus qu'un seul numéro avant la fin. » Les lumières avaient été rallumées pour un court entr'acte. Typique de l'architecture édouardienne, l'intérieur du Wood Green Empire donnait une impression tout à la fois de luxe et d'exubérance rococo. La salle était une boîte à bijoux tendue de velours grenat, où les stucs, les dorures, les lustres de cristal, les colonnettes de style ionique ornant les arcades des loges ne semblaient destinés qu'à illustrer le vers de Shakespeare inscrit en relief sur la corniche. « Le monde entier, disait-il, est une scène de théâtre. » Accueillis dans cet écrin, les spectateurs s'y sentaient rehaussés du même halo de gloire que les acteurs et comme transfigurés eux aussi par les feux de la rampe. Sur la toile d'avant-scène, peinte en trompe-l'œil, on pouvait voir un proscénium imaginaire flanqué de colonnes torses et d'escaliers menant à un second rideau dont l'étoffe remontait en lourd drapé à l'italienne vers les côtés. Sachant que le changement de tableau ne durerait qu'une dizaine de minutes, les spectateurs ne s'étaient pas levés, mais s'ébrouaient sur place, relâchant leurs muscles ankylosés, glosant sur la virtuosité des tours ou essayant d'en expliquer les artifices. Ce n'était certes pas un public d'opéra, mais pas non plus celui d'un beuglant. Les gens s'étaient habillés et, à l'orchestre, au milieu des redingotes de confection, certaines jeunes femmes auraient aisément éclipsé celles qui les observaient derrière leurs jumelles depuis le clair-obscur des galeries. « Je vais bientôt commencer à m'ennuyer, » dit Cantrell en se massant les tempes. « Vous êtes sûr que nous devons assister à cette chose ?»«
Absolument certain, » répondit Holmes. « C'est le seul moyen pour rencontrer cet homme. » On l'a fait prévenir, nous irons le saluer en coulisses dès la fin du spectacle. Mais enfin, ce cirque Martirio, on devrait pouvoir le retrouver par d'autres moyens, non ?
J'ai vérifié, dit Grimaud. Aussi étrange que cela paraisse, ce cirque n'existe pas plus que la marque Ananke pour les chaussures. Et c'est Chang Ling Soo lui-même qui a insisté auprès du journaliste pour qu'on mentionne ce détail.
Si vous le dites, grommela Cantrell en s'éventant avec son programme. Dans la fosse d'orchestre, les musiciens finissaient d'accorder leurs instruments. Les lustres s'éteignirent peu à peu, les conversations aussi. Quelques toussotements de prudence accompagnèrent les premières mesures d'une ouverture dramatique où la dissonance des flûtes simulait une chine d'Orphéon. On haussa les flammèches de la rampe et sur un coup de gong retentissant, le rideau se leva. Le décor avait complètement changé.
L'action étant cette fois au cœur de Pékin, sous les murailles de la cité interdite. Précédée par des porteurs de bannières, une troupe de tambours chinois défila sur scène avant de se disposer en arrière-plan. Parut ensuite une escouade de boxeurs avec turban vert amande et tunique noire, tous armés d'un fusil et menés par un officier rebelle de l'armée impériale. Affublé d'un casque à ailettes surmonté d'un plumet, l'homme portait une large ceinture de soie rouge où s'accrochait un sabre. Les figurants se rangèrent sur la gauche, tandis qu'une série de coups de gong et de cymbales soulignait l'apparition, à droite de la scène, d'un palanquin richement orné. Cheng Ling-Su en sortit lentement, vêtu d'une robe de soie jaune, garnie de dragons et coiffée d'une toque de mandarin à boutons d'or. Il se campa devant ses ennemis, les défiant avec noblesse. Sur ordre de l'officier, quatre des soldats firent un pas en avant pour constituer le peloton d'exécution. Un assistant, travesti en chinois lui aussi, s'avança vers les spectateurs. « Le grand monsieur Cheng Ling-Su ne parlait que la langue de ses ancêtres. Il vous envoie par ma bouche ses excuses lamentables. » Pendant révolte des boxeurs, son Excellence choisit de rester fidèle à la jeunesse de l'empereur Guangxu. Prisonnier par les rebelles, il fut condamné à l'horreur de la fusillation. Exceptionnellement, il accepte ce soir de vous montrer comment il rescapa de la mort grâce au pouvoir magique de ses dents de devant. Il continua dans le même sabir pour convier deux personnes de l'assistance à venir sur scène examiner les munitions, la poudre et les fusils, puis leur demander de repérer chacune des balles en y incisant une marque de leur choix. Cela fait, il chargea les armes sous leurs yeux et les invita à regagner leur place.
« Officier !» implora-t-il en se tournant vers le chef des boxeurs. « Pitié pour Cheng Ling-Su !»
Un roulement de tambour accentua le mépris de l'officier et la lenteur avec laquelle il leva son sabre pour donner l'ordre de tir. Durant ce moment de tension extrême, l'assistant traversa la scène et s'arrêta un court instant auprès de Cheng Ling-Su. Il le salua pour lui faire ses adieux, puis lui remit une assiette de porcelaine. Souriant, le magicien s'en protégea le torse comme d'un bouclier dérisoire.
« En joue !» brailla l'officier. Les soldats pointèrent leurs fusils, le sabre s'abaissa. « Feu !»
La déflagration fit sursauter l'ensemble des spectateurs. Cantrel lui-même, qui achevait un origami compliqué avec le programme, ne put empêcher un léger froissement de sa lèvre inférieure. À travers d'épaisses volutes de fumée, on vit Cheng Ling-Su chanceler sous l'impact. Avec un art consommé du mime, il ouvrit de grands yeux, fit une de ces grimaces qui, pour le plaisir de son public, remplaçait toute parole de sa part, et, rapprochant l'assiette de sa bouche, il y cracha une balle, puis deux, puis trois, fit mine de s'étonner, de chercher la quatrième avec sa langue, et la régurgita soudain dans un flot de sang étonnamment réel. Il tomba à genoux, hoquetant.
« Ça a merdé, putain ! Baissez le rideau ! « Baissez le rideau, je vous dis !»
Après avoir posé l'assiette sur le plancher en un geste admirable de conscience professionnelle, il s'écroula. C'était la première fois depuis 15 ans qu'il parlait sur scène. Ce fut la dernière.